affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Avez-vous déjà essayé de vous renseigner sur le réchauffement climatique, sur son ampleur, sur ses causes et les éventuels moyens d'y remédier? L'expérience n'est pas de tout repos. Peu de sujets déclenchent en effet autant les passions, et surtout des passions qui n'ont pas toujours de rapport ou alors un rapport assez lointain avec le sujet. Sur votre chemin, vous allez en effet croiser des partisans de la décroissance, hostiles au capitalisme, des écologistes partisans du retour à la nature, des militants anti-nucléaires ou pro-nucléaires, des progressistes utopiques et des réactionnaires avérés, des technophobes et des technophiles, des humanistes, des post-humanistes, des transhumanistes et même quelques millénaristes. Vous allez aussi croiser beaucoup de marchands, marchands de peur et marchands d'espoir, marchands de solutions techniques plus ou moins valables, mais toujours étiquetées vertes, environnementales, écologiques ou durables, bien sûr. Des vendeurs d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, de chaudières à bois, de voitures électriques ou hybrides. Et bien sûr, vous allez aussi croiser un grand nombre d'élus, de politiques, qui, sans ignorer le problème, l'abordent souvent avec d'autres préoccupations en tête, et surtout leur propre agenda. C'est en pensant à tous ceux de nos compatriotes qui ont expérimenté cette quête, et qui ont la désagréable sensation d'être perdus dans un dédale inextricable d'arguments et de convictions contradictoires, que notre invité a décidé de prendre la plume avec un programme simple contenu dans le titre de son livre « Climat, y voir clair, pour agir ». Son auteur s'appelle Sébastien Balibar, il est physicien de formation, membre de l'Académie des sciences, et il a donc accepté notre invitation et la délicate mission de nous donner les clés pour y voir clair sur les enjeux du réchauffement climatique, cette fois non pas dans un ouvrage entier, mais en trois quarts d'heure. Sébastien Balibar, bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
C'est nous qui vous remercions. Alors pour commencer, pouvez-vous nous préciser quand et pourquoi vous avez décidé soudainement de vous intéresser aux questions de climat en tant que physicien?
Ah oui, eh bien si j'y réfléchis un peu, je pense que j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes liés de climat et d'énergie il y a une dizaine d'années. C'était 2005, on préparait l'année mondiale de la physique, en particulier avec Édouard Brézin. Et donc, nous avions décidé de faire un livre sur l'état actuel de la physique, son avenir, et sous la forme d'une série de questions ouvertes. Et là-dedans, bien sûr, il y avait l'énergie et le climat. Et donc, nous avons reçu des quantités de spécialistes dans tous les domaines de la physique, et en particulier celui-là. Je suis passé progressivement, en écoutant ces climatologues ou ces spécialistes de l'énergie, de la curiosité pour un problème très complexe, à une sorte de passion, parce que c'est un problème extrêmement grave pour la planète, donc pour notre vie future, et qu'en même temps, d'un point de vue scientifique, c'est très complexe, donc très intéressant. Alors par la suite, il y a 4 ans, j'ai été élu à l'Académie des sciences. Je suis immédiatement entré au comité de prospective sur l'énergie, où nous avons travaillé et nous continuons de travailler très régulièrement, et où nous recevons à nouveau beaucoup d'experts, et j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, dans la cacophonie ambiante que vous avez résumée, j'ai pensé qu'on avait besoin peut-être d'un interprète ou d'un avocat qui soit un peu au milieu de toutes ces disciplines à la fois. Donc, en tant que physicien, je me suis senti à la fois au cœur des problèmes de climat que je crois comprendre relativement bien et certainement au cœur des problèmes d'énergie. Et donc, j'ai eu l'envie d'écrire pour tout le monde quelque chose de compréhensible qui nous sorte de cette cacophonie, de ce pugilat entre opinions contraires, sous forme de ce petit livre qui est effectivement petit sur un vaste sujet, puisqu'il a trois grands aspects, le climat, les négociations internationales et quelle solution choisir, donc quelle transition énergétique au niveau de chaque pays. Et donc j'ai résumé un peu tout ça en 200 pages, voilà.
Parfait, alors justement, commençons par le premier terme, le climat. Après examen du dossier, sur presque 10 ans maintenant, quel est votre diagnostic? Est-on réellement confrontés à un réchauffement climatique, bon ça c'est clair, mais d'ampleur inégalée, comme on peut le lire.
Oui, effectivement, je crois que les milliers de climatologues réunis dans le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts du climat, IPCC en anglais, ont très bien expliqué dans les milliers de pages de leur cinquième rapport, qui confirmait leur analyse et leur prédiction du quatrième rapport il y a environ 6 ans, à savoir que, un, la Terre se réchauffe, il n'y a aucun doute, même si certains manipulateurs de chiffres le remettent en question, ils ont tort. Il y a par exemple beaucoup de gens qui ont prétendu que le réchauffement c'était fini depuis 1998. C'est pas vrai. 2013, ça a été réchauffé sur 2012. 2014 a battu tous les records de température depuis toujours. Et 2015, ça annonce déjà encore plus chaud que 2014.
Oui, mais si je comprends bien, il peut y avoir des variations annuelles, bien sûr.
Effectivement.
Ce qui compte, c'est la dynamique.
Bien sûr, globale. C'est ce qui rend le problème difficile à analyser parfois. Donc, le système, il faut voir que le climat, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais entre autres, c'est la température de deux systèmes turbulents, l'un qui est l'atmosphère, l'autre qui sont les océans, qui sont couplés ensemble. Donc, ces systèmes ont des oscillations internes. Il y a des instabilités. Par exemple, il y a un phénomène qu'on appelle El Niño, qui est une sorte de grosse bouffée de chaleur qui ressort dans le Pacifique tropical à l'ouest et qui se propage vers l'est en réchauffant en fait toute la planète finalement. Et la présence d'El Niño qui se reproduit de manière un peu aléatoire tous les 3 à 7 ans, ça fait un peu d'oscillation vers le haut et puis dans les périodes entre deux El Niño, ça refroidit un peu. Donc ça oscille un peu, mais on comprend très bien les mécanismes de ce... Puis il y a d'autres instabilités, une dans l'Atlantique, une autre dans le Pacifique et même encore peut-être d'autres, qui font que de temps en temps il y a un petit plateau, mais ça, tout ça sont des oscillations qui se superposent à une tendance générale qui est sans aucun doute le réchauffement. Alors en fait, le réchauffement c'est une chose, mais comme je disais, le climat c'est aussi est-ce qu'il pleut, est-ce qu'au contraire c'est la canicule, la sécheresse, etc. Est-ce que les glaciers fondent Et donc tout ça s'observe, les glaciers, il y en a deux sortes, la banquise qui flotte et puis les glaciers continentaux. Et il n'y a aucun doute, on le mesure parfaitement, avec une immense précision. Tous les glaciers fondent, et même leur fonte accélère. Et en fondant, les glaciers continentaux font monter le niveau de la mer. Par ailleurs, le niveau de la mer absorbe le gaz carbonique que nous émettons en brûlant du pétrole, du gaz et du charbon, ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Donc non seulement la mer monte, mais elle devient plus acide. Et donc ça menace terriblement la faune. En particulier, le plancton qui a des carbonates de calcium dans sa structure, les crustacés évidemment, les coraux, tout ça sont des choses qui sont terriblement menacées par l'acidification des océans qui dissout le calcaire. Voilà.
Bon. Parce que là, on en est aux conséquences. C'est-à-dire que,
oui, j'ai sauté aux conséquences.
Oui, mais c'est-à-dire que, allons vers les conséquences.
Mais si vous voulez...
Puisque le fait est établi, il y a une première question, c'est que certains vont dire, bon, d'accord, ok, je ne sais pas, le réchauffement, aujourd'hui, de combien de degrés est-il, mettons
Oui, alors
Et quelles sont les perspectives le réchauffement, la mesure.
Pour faire des prédictions, il faut avoir un modèle. Et le modèle est parfaitement cohérent avec les mesures actuelles. Dans tous ces aspects, c'est parce que le modèle rend compte à la fois de l'augmentation de température, de la fonte des glaciers et de la montée des océans, de leur acidification, etc., qu'il est parfaitement crédible. Il est, en fait, il y a plusieurs manières, bien sûr, il y a des milliers de gens qui travaillent là-dessus, donc il y a plusieurs modèles qui sont tous cohérents à quelque chose près. Et donc, en utilisant ces modèles, on peut essayer de prédire l'avenir, bien que ce soit évidemment difficile, donc il y a certaines barres d'erreur. Alors, il faut voir que le réchauffement actuel est de 0,9 degrés, presque 1 degré, par rapport à la période pré-industrielle, donc les années 1880-1900. Alors, il faut voir aussi que la température de la Terre a beaucoup oscillé à travers les âges, et on connaît ça depuis 800 000 ans. Et on voit que l'orbite de la Terre oscille un peu à cause de l'influence des autres planètes, ce qui fait que la température de la Terre a oscillé entre des périodes glaciaires où il fait froid et des périodes interglaciaires où il fait chaud. Mais il faut voir que les périodes glaciaires où il fait froid et où toute l'Europe du Nord était recouverte, par exemple, de kilomètres d'épaisseur de glaciers, il faisait que 5 degrés de moins que la référence des années 1880-90. Et dans les périodes interglaciaires, il faisait 1 degré de plus. Donc on oscille d'environ 6 degrés entre plus 1 et moins 5 par rapport à la période en question, 1900.
Hein. C'est-à-dire que, parce que ce degré dont on parle, c'est la température moyenne de la Terre. Et oui. Donc ça ne préjuge pas de variations beaucoup plus importantes selon les zones géographiques.
Absolument. Vous avez absolument raison. Donc cette température dont je parle, c'est la température globale moyenne de la Terre. Et il faut voir que c'est très différent selon les endroits. Donc il y a des gens qui manipulent les chiffres à cause de ça. Mais par exemple, les régions centrales des continents se réchauffent beaucoup plus, 2,5 degrés au lieu de 0,9, vous voyez, c'est presque trois fois plus, que la moyenne. En revanche, dans les océans, c'est plutôt un peu moins. Et il y a certaines régions des océans, en particulier au large du Labrador, dans l'Atlantique Nord, où au contraire, ça refroidit. Ça refroidit à cause du Gulf Stream, en fait, qui est un grand courant marin qui fait le tour de tous les continents, qui arrive au pôle Nord, se refroidit et plonge au large du Canada, à un endroit où, justement, eh bien, l'océan se refroidit. Donc c'est pour dire que c'est très inhomogène et que pour avoir une idée de ce qui se passe, eh bien, il faut faire la moyenne. Bon, c'est comme quand vous mettez une casserole d'eau sur le feu, il y a des bulles qui naissent à des endroits plus chauds, elles montent, elles se refroidissent en s'évaporant, ça redescend ailleurs. La température n'est pas homogène, mais il n'y a aucun doute qu'en moyenne, sur l'ensemble de la casserole, la température monte. Et c'est un peu ce qui se passe, vous voyez. Donc, effectivement, la température dont je parle, c'est la température globale, et contrairement à certains esprits chagrins, je ne prends pas la température locale, par exemple aux États-Unis ou aux Pays-Bas, parce que ce n'est pas représentatif de l'ensemble de ce qui se passe. Alors, j'étais en train de vous dire que la température de la Terre a toujours oscillé à cause de phénomènes qui ont trait aux oscillations de l'orbite de la Terre et aussi de l'inclinaison de son axe. Bon. Mais on est à la limite haute. On est déjà à plus 0,9 par rapport à plus 1. C'est à peu près la limite haute de ce que la Terre a jamais connu depuis 1 million d'années. 800 000, bon. Alors, les prédictions nous disent que ça continue, ça va continuer d'une manière qui dépend de la politique qu'on va mettre en œuvre.
Donc c'est-à-dire qu'au-delà du réchauffement qu'on a pu le calculer, les experts dont vous parlez et vos propres recherches vous tendent à démontrer que l'action humaine a un rôle dans ce réchauffement.
Absolument. Alors, on va parler de l'action humaine, mais je voulais juste finir ce que je disais, à savoir que les prédictions, grâce à des modèles qui me paraissent absolument bien confirmés, donc fiables, c'est entre 1 et 4 degrés de plus que ce que la Terre n'a jamais connu depuis 800 000 ans, avec des conséquences, on va y revenir, qui sont quand même très graves.
Alors, parlons des conséquences.
Oui. Des conséquences.
Oui, parlons des conséquences.
Alors, les conséquences, en fait, on comprend que, vous savez, quand la température augmente, il y a plus d'évaporation au niveau de l'équateur, il fait plus chaud, mais cet air est plus chaud, il contient plus de vapeur d'eau, et cette vapeur d'eau va se condenser quelque part sous forme de gouttelettes, de nuages, de pluie, et de tempêtes et d'ouragans. Bon. Et donc, en fait, les modèles prédisent une intensification des extrêmes. Ça veut dire que la température n'augmente pas de manière homogène partout, pas du tout. Ça veut dire que les endroits qui sont déjà très secs, très chauds, vont devenir encore pires. Les endroits comme les latitudes élevées, où il pleut beaucoup, il va pleuvoir beaucoup plus. Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est que l'intensité des tempêtes ou des pluies diluviennes, parce que l'air chaud contient plus d'humidité, va aussi augmenter. Alors, il n'y a pas de certitude sur l'événement récent qui vient de se passer dans le sud de la France, mais il est très vraisemblable que l'intensité de ces pluies diluviennes dans le sud de la France est liée à ce réchauffement climatique. Il est lié aussi, sans doute, avec le fait que l'urbanisation fait que l'eau rentre moins dans le sol et coule davantage sur des rues ou des endroits bétonnés. Bon. Donc, c'est très inquiétant. Alors, ensuite, il faut voir que quand il fait plus chaud, évidemment, les glaciers fondent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les glaciers, il y en a qui sont très importants pour nous, qui sont tous les glaciers des montagnes, quoi, des Alpes pour nous, ou de l'Himalaya pour des pays en Asie. Et ça, c'est préoccupant parce que c'est la réserve d'eau douce. Donc que ce soit pour la boire ou surtout pour irriguer les cultures, la disparition des glaciers menace de manière très très préoccupante l'irrigation et l'eau potable dont on a besoin pour vivre, vous voyez. Et cette accélération, elle est considérable. Il y a des glaciers comme le glacier Columbia en Alaska qui a reculé de 15 kilomètres avec, et en épaisseur, c'est des centaines de mètres depuis une vingtaine d'années. Je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais c'est dans mon livre. Bon. Et même, puisqu'on est en France, vous voyez la mer de glace qui descend au-dessus de Chamonix, là, si vous y êtes allé, vous vous souvenez qu'au bout de la mer de glace, il faut remonter un peu de rocher pour prendre le tramway, le montant vert, là, qui descend à Chamonix. Eh bien, tous les ans, on rajoute une échelle pour que les gens qui descendent la mer de glace puissent remonter le rocher jusqu'à la station du train du montant vert. Une échelle, ça fait 3 mètres. Ça veut dire que la mer de glace, au-dessus de Chamonix, elle diminue en épaisseur de 3 mètres par an. Bon. Et donc, voilà, la mer de glace, bientôt, il n'y en aura plus. Et les rivières, ça, c'est utile pour l'irrigation et pour beaucoup de choses. Vous voyez, et dans des pays comme le Bangladesh, qui ont besoin des glaciers de l'Himalaya pour irriguer les cultures pendant l'été, c'est dramatique. Alors, ce qui est dramatique encore aussi, bien que ce soit encore un sujet complexe, mais c'est l'intensité des typhons. Alors, ça, l'intensité ou le nombre des typhons ne va pas augmenter partout ou arriver à des endroits, non. Mais dans les zones tropicales où ces typhons ont lieu, d'ailleurs en ce moment, à la fin de l'été ou au début de l'automne, eh bien, il est vraisemblable que l'intensité de ces typhons va augmenter. On vient de voir des typhons absolument hallucinants. Des vents de 380 km/h, vous vous rendez compte ce que ça donne. Et là, il y a eu le plus gros typhon que le Mexique n'ait jamais connu la semaine dernière. Alors, un pays comme le Bengale, ils vont avoir tout à la fois. Le niveau des mers monte, il y a la moitié des 150 millions d'habitants qui habitent à moins de 1 mètre d'altitude, parce que c'est le delta du Gange et du Brahmapoutre. 150 millions d'habitants, la moitié habite. Bon. Donc si le niveau des mers augmente d'environ 1 mètre ou même un peu moins, comme les modèles le prédisent, si on ne fait rien, bon, eh bien il y a 75 millions d'habitants du Bangladesh qui vont devoir émigrer ailleurs. Bon. D'autant plus que l'été, ils n'auront plus d'eau pour irriguer leur culture, donc il n'y aura rien à manger, et qu'en plus, leur pays sera ravagé par des typhons. Donc, vous voyez, je ne veux pas trop en rajouter, parce qu'il ne faut pas non plus être trop catastrophique, mais c'est quand même pour dire que la situation est très sérieuse. Alors, qui est responsable ? Donc, c'est ça la question que vous vouliez me poser ?
Oui, enfin, qui est responsable, et puis, enfin, quelle est la cause, sans désigner les coupables ?
Oui.
Voilà, ça aidera peut-être à trouver la solution.
On ne va pas parler de coupable parce qu'on va essayer de trouver des solutions, effectivement. Bon. Alors, on a démontré, et ça aussi, c'est cohérent avec les modèles, les calculs, la science du climat, bon, et la science de l'énergie, de ces échanges. Bon. On a démontré que l'origine, c'est ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Donc, l'activité humaine, depuis le début de l'ère industrielle, brûle du charbon, du pétrole et du gaz parce que l'industrie a besoin d'énergie et puis qu'on a plein de voitures qui ont besoin de pétrole, d'essence, enfin bon, etc. Ou pour se chauffer à la maison, on prend du fioul, du gaz naturel. Avant, c'était du charbon en France, mais c'est toujours du charbon dans de nombreux pays. Alors, on a démontré que c'est ça qui est à l'origine du réchauffement climatique. Il y a un raisonnement abstrait un peu, qui consiste à dire, oui, en fait, c'est parce que ces gaz à effet de serre, comme leur nom l'indique, absorbent le rayonnement infrarouge réémis par la Terre. Il faut voir que, comme à travers une fenêtre, que l'analogie est un peu discutable, mais enfin, à travers une fenêtre dans une serre, la lumière visible du soleil pénètre, c'est transparent, mais l'infrarouge que réémet l'intérieur de la Terre qui est chaud et qui, donc, comme tout corps chaud, émet de l'infrarouge, de la lumière infrarouge, lui, il est absorbé, donc il ne ressort pas. Donc la serre accumule à l'intérieur, derrière les fenêtres, qui absorbent l'infrarouge, accumule de la chaleur et il fait chaud. Bon, eh bien la Terre, c'est pareil. Hein. Et donc, l'atmosphère chargée de très petites quantités, mais ça suffit, de CO2, ce gaz carbonique qui provient de la combustion donc, des fossiles, absorbe l'infrarouge et donc, en empêchant la réémission de la chaleur, le réchauffe. Bon. Maintenant, d'où vient ce CO2? Je vous ai déjà laissé entendre que j'étais convaincu que c'était la combustion des combustibles fossiles. Mais il y a une preuve de ça, et même plusieurs. Mais il y en a une qui me paraît absolument indubitable. C'est la datation au carbone 14. Vous savez, en archéologie, on date les poteries en regardant la proportion de l'isotope 14. Donc le carbone, il y a du carbone 12, 13, 14. Et puis il y en a un qui est radioactif, c'est le carbone 14, légèrement radioactif. Vous inquiétez pas, on en a plein le corps humain. Hein, donc on est un peu radioactif, nous tous, même vous et moi. Bon. On peut dater les poteries ou les fossiles en regardant ce qui reste de carbone 14, parce qu'au bout de 5700 ans, il n'y en a plus que la moitié, ça disparaît progressivement parce que c'est radioactif, justement. Bon. Alors, le carbone fossile qui est dans le pétrole, le gaz et le charbon qu'on brûle, c'est du très très vieux carbone accumulé depuis des millions d'années par la transformation de la végétation avec à haute température, haute pression sous la Terre. Bon. Donc, il n'y a plus de carbone 14. Et donc, vous voyez bien que si l'augmentation du carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère provient de cette combustion de vieux carbone, eh bien, il n'a pas de carbone 14. Donc, la concentration générale dans l'atmosphère doit diminuer. Et elle diminue, bien sûr. Enfin, bien sûr. C'est clair, c'est mesuré avec précision. Alors, il y a quelques climato-sceptiques qui prétendent que non, l'augmentation du CO2 ne serait pas la cause, mais la conséquence d'un réchauffement climatique qui serait dû à l'activité solaire, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est faux. Les mesures prouvent le contraire. Si c'était l'activité solaire qui augmentait, qui donc créait davantage et faisait évaporer davantage de CO2 d'un milieu vivant comme la surface des océans, eh bien, la concentration en ce carbone 14 serait à peu près constante. Non, elle diminue. Donc, il n'y a aucun doute. C'est les fossiles. C'est l'activité humaine.
Alors, justement, cette activité humaine, elle est également... diversifier, elle prend différentes formes,
oui, parce que bon,
il va falloir faire quelque chose. Donc oui. L'objectif, c'est de réduire les émissions.
Absolument. Alors on en arrive à la fois, mais lentement mais sûrement, premièrement aux négociations en cours, et puis ensuite, sans doute, aux transitions énergétiques qu'il faut essayer de mettre en place. Bon.
Alors, est-ce qu'il y a un niveau global souhaitable qui permettrait d'éviter la catastrophe?
Je le crois, okay. Et j'ai écrit ça aussi dans mon livre. Mais commençons par la diversité, parce qu'effectivement, les pays émettent des quantités de gaz carbonique, donc de CO2, je le répète, qui sont extrêmement variables. En moyenne, moi j'aime bien compter par habitant, combien chaque personne émet. Parce qu'après tout, c'est une responsabilité individuelle aussi, cette histoire de pollution. Bon. Et donc la moyenne mondiale, c'est environ 4,5 tonnes de ce gaz toxique polluant. Donc 4,5 tonnes de CO2 par personne et par an. Bon. Alors, il y a des pays qui sont proches de cette moyenne, dont la France. On est à 5 et quelques, 5,1 je crois. Et la Suède, qui sont un pays extraordinairement efficace dans sa lutte justement contre la pollution par le CO2. Donc la Suède et la France sont à peu près dans la moyenne mondiale. Mais il y a des pays extrêmement pollueurs, dont bien sûr l'Allemagne, qui brûle tellement de charbon, ainsi que la Pologne, la Tchéquie, les Pays-Bas, que eux, c'est plutôt 9, 10 ou 11 tonnes par habitant. Donc il faut voir que les Allemands, qui sont un pays comparable à la France, émettent quand même presque deux fois plus de pollution que la France. Et puis, il y a des pays qui gaspillent l'énergie dans des proportions inadmissibles, en particulier le trio États-Unis, Australie, Canada, qui sont des gens qui ont l'habitude de laisser les fenêtres grandes ouvertes avec la climatisation à fond l'été, d'avoir d'énormes voitures à 3 par famille parce qu'ils habitent loin et qu'ils vont en ville avec des 4x4, etc. Et j'en passe. Bon. Et donc, ces pays-là sont aux environs de 16 tonnes. Hein, vous voyez, 11 fois plus que ce qu'il faudrait émettre pour s'en sortir, et je vais y venir. Il y a quelques pays bizarres, le Luxembourg, c'est cocasse pour une raison que je peux vous expliquer si vous voulez, mais surtout le Qatar, qui est évidemment un pays qui est producteur de pétrole et qui doit gaspiller dans des proportions absolument hallucinantes. Alors eux, ils sont à 35 tonnes par habitant. Bon. Et donc, ensuite, il y a des pays émergents, comme on dit, au premier rang desquels la Chine, bien sûr, dont tout le monde parle. Alors, la Chine, en quantité totale, émet 50% de plus que les États-Unis, ce qui est un argument qu'utilisent les Américains dans les négociations. Ils disent, vous voyez, Chinois, vous émettez beaucoup plus de pollution que nous. Oui, mais enfin, ils sont 1,35 milliard, ils sont 5 fois plus nombreux. Donc c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Ce qui compte, c'est par personne, j'insiste. Et par personne, la Chine est à environ 6 tonnes de CO2 par personne. Mais... Et donc, on pourrait dire autre chose à ce moment-là. Excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est important. Il faut voir aussi les tendances. Et donc, les émissions de CO2 sont à peu près stables en Europe depuis assez longtemps. Aux États-Unis, après l'échec des négociations de Kyoto, les États-Unis ont refusé de signer cet accord. Et on continuait à émettre de plus en plus de CO2 jusqu'en 2005. Et puis en 2005, ils ont commencé à remplacer le charbon par les gaz de schiste qu'ils ont trouvés dans leur sous-sol. Et le résultat, enfin si j'ai bien compris, c'est que depuis 2005, enfin, les États-Unis réduisent un peu leurs émissions de CO2. Mais elles restent extrêmement élevées. Bon. Mais il faut bien voir ça aussi. Alors la Chine, j'y reviens, enfin... La Chine se distingue des autres par le fait que ses émissions augmentent à une vitesse vertigineuse. Et donc, entre 2012 et 2013, par exemple, leurs émissions ont augmenté de 21,5% en une seule année. Et donc, il faut bien voir, et on en arrive progressivement aux négociations actuelles, que si la Chine continue comme ça à augmenter ses émissions de plus de 20% par an, surtout que dans les propositions qu'ils font, ils disent « écoutez, nous, en 2030, on verra commencer à réduire nos émissions. » Alors là, la Chine, à elle seule, va déstabiliser l'ensemble du climat de toute la planète. Bon. Et puis alors, il y a des pays extrêmement pauvres, mettons l'Éthiopie, dont on parle souvent, comme exemple de pays pauvres qui a vraiment des difficultés financières, il faut les aider, qui, eux, n'émettent pratiquement rien. Bon. C'est un pays de 91 millions d'habitants, je crois. C'est comparable à l'Allemagne. Leurs émissions sont 100 fois moins que l'Allemagne. Et donc, ce n'est pas un problème de démographie, vous voyez tout ça. C'est un problème de richesse et de politique énergétique. Alors, il me manquait... Pardon, je m'aperçois qu'il manquait l'essentiel dans mon long raisonnement. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter le réchauffement climatique à quelque chose de supportable ?
Oui, c'est ça. Combien de tonnes par habitant ?
Voilà. Alors, c'est une règle de 3 que j'ai faite. C'est 1,5 tonnes par habitant. Et donc, dans ce livre, j'explique qu'il faudrait essayer, en 2050, de réussir à réduire les émissions globales de la planète à 1,5 par habitant. Alors, vous voyez que pratiquement tous les pays doivent faire un effort... Même les pays émergents, le Brésil, l'Inde, la Chine certainement, et beaucoup d'autres pays sont tout près, même déjà un peu au-dessus, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie sont à 3. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de pays. Et donc, c'est pas le moment de dire « Ah, c'est la faute des autres, ah, les pays riches contre les pays pauvres, l'histoire du capitalisme, je ne sais quoi, l'Est contre l'Ouest, la nature contre le développement ». Non. Non, non, non. C'est urgent. Il faut que tout le monde s'y mette et tous ensemble. Voilà. Donc, c'est ce qui nous attend.
Alors, si c'est le cas, le processus de réchauffement est-il réversible ? Certains, qui sont plus catastrophistes que d'autres, nous expliquent que, de toute façon, c'est déjà trop tard.
Oui. Alors, il ne faut pas être trop pessimiste. Mais c'est vrai que ça a un caractère irréversible. Pourquoi ? Parce que le CO2, donc ce gaz carbonique qu'on émet en brûlant des fossiles... s'accumule dans l'atmosphère pour moitié. Il y en a un quart qui est absorbé par la végétation, les arbres en poussant absorbent du carbone, et puis l'autre quart se dissout dans les océans, d'où l'acidification qui menace la faune. Bon. Mais c'est un processus lent. En particulier, l'absorption par les océans, ça prend des siècles, si ce n'est des millénaires. Et donc, pour l'instant, et pour de nombreux siècles, le CO2 s'accumule. Donc ça monte. On a déjà émis, autant que je me souvienne, 2000 milliards de tonnes de CO2. Et si on arrive au-delà de 3000, alors là, le climat diverge. Et donc effectivement, il y a une urgence parce que ça s'accumule et qu'il faut agir tout de suite.
Qu'appelez-vous diverger ?
Ah, devenir incontrôlable. Excusez-moi, c'est du jargon de physicien. Disons devenir incontrôlable, quoi. Il faut voir qu'il y a des effets
qui... On sort du modèle prédictif.
Le modèle devient de plus en plus hasardeux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des effets qui viennent des amplifications. Par exemple, vous voyez bien la calotte, la banquise au pôle Nord. Bon, pour l'instant, c'est blanc. Donc c'est blanc, ça réfléchit la lumière. Donc ça absorbe pas beaucoup à cet endroit-là. Mais on prédit qu'en 2050 environ, en fin d'été, l'ensemble de la banquise de Pôle Nord aura fondu. Ça veut dire qu'au lieu, la lumière du soleil, au lieu d'être réfléchie par la surface blanche de la glace, va être absorbée, et à 90%, par la mer qui sera nue, au lieu d'être couverte de glace, vous voyez. Et donc ça, c'est clair que ça veut dire qu'à ce moment-là, et on y va, hein, l'effet du CO2 va être encore plus fort qu'il ne l'est actuellement. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle des contre-réactions positives. Il y en a aussi quelques-unes qui sont négatives. Par exemple, les nuages dont il peut y avoir davantage en basse altitude dans certaines régions, ça, au contraire, ça a tendance à atténuer l'effet du soleil. Mais l'un dans l'autre, il y a plus de réactions positives que de contre-réactions négatives. Et donc, il est vraisemblable qu'à un moment, ça diverge, comme je disais, c'est-à-dire que ça va sortir complètement de ce qu'on peut précisément prédire, quoi. Voilà, donc c'est aussi ça qui nous préoccupe, oui, bien sûr.
Alors pour arriver à cet objectif d'1,5 tonnes par habitant et par an, c'est ça ?
Oui.
Quelles sont les techniques envisageables ? Parce finalement, c'est assez technique. Je sais que vous voulez me parler des négociations internationales, mais...
Oui, je voudrais quand même en dire... Mais ça va être rapide, vous inquiétez pas. Après, on va venir à l'énergie, aux transitions énergétiques. Mais il faut voir que les négociations internationales, donc les conférences qu'on appelle COP, et on en est à la 21e, les 20 premières n'ont abouti à rien, les décisions doivent se prendre à l'unanimité. Alors, l'unanimité, c'est extrêmement difficile. Sur un problème aussi complexe, avec des pays aussi différents. Bon. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de... Alors, il y a deux solutions. Ou bien on demande à tous les pays, on laisse tous les pays faire ce qu'ils veulent. C'est ce qui se passe en ce moment. Chacun a proposé de faire ceci, cela. C'est déjà bien, hein. Si tout le monde admet qu'il faut faire quelque chose, c'est déjà un progrès. Si en plus ce quelque chose est chiffré avec des dates, c'est encore mieux. Donc j'espère qu'on va y arriver, mais il faudra continuer. Parce que bien sûr, les pays proposent ce qui les arrange. Bon. Mais l'objectif final, il me semble, c'est pourquoi c'est 1,5 tonnes par habitant et par an ? Parce que personne n'a le droit de polluer plus que d'autres. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on se fixe ça comme objectif intermédiaire en 2050. Alors ensuite, on en arrive à comment faire pour atteindre cet objectif. Bon, c'était ça votre question.
Oui, c'était ça la question.
Bien sûr. Alors, vous voyez, la France, c'est 5,1, donc c'est à peu près 3,5, 4 fois plus que le 1,5. Donc, c'est le facteur 4 dont on parle parfois, même assez souvent. Il faudrait réduire en France les émissions de CO2 d'un facteur 4. Il faudrait faire 4 fois moins.
En 30 ans.
En 30 ans, 35 ans, mais c'est très, très, très difficile. Et donc, pour y arriver, il faut d'abord voir où... Quelle est l'activité qui pollue, quoi. Alors, quand on regarde les chiffres sur la consommation, c'est une question de consommation et de production d'énergie. Donc, la consommation et les émissions de CO2, c'est surtout, premièrement, le transport. Donc, c'est toutes les voitures, tous les camions, qui émettent plein de pollution. Parce que c'est tous à essence ou diesel. Ensuite, c'est l'habitat, parce que pour chauffer les maisons l'hiver, ou pour climatiser l'été d'ailleurs, mais surtout pour chauffer l'hiver et pour produire de l'eau chaude, eh bien, on brûle du gaz naturel souvent. On a abandonné le charbon en France, tant mieux, mais aussi du fioul. Bon. Et donc, les endroits où les secteurs, pardon, dans lesquels la France émet beaucoup de pollution, eh bien, c'est le transport et l'habitat. Il y a aussi le chauffage de tous les bureaux, hein, bien sûr, il n'y a pas seulement votre maison individuelle. Alors, ensuite, il en reste un peu dans la production d'énergie et dans l'industrie. Alors, l'industrie, on a beaucoup délocalisé dans d'autres pays, donc on pourrait parler de ça. Mais, et puis, en France, eh bien, comme vous le savez, l'électricité est relativement propre. Pourquoi elle est propre ? Parce qu'on a un peu d'hydroélectrique. Les barrages, c'est formidable. Alors là, les pays qui ont de quoi installer des barrages, il faut y aller. Mais en France, on a équipé à peu près tous les torrents, toutes les vallées possibles. Et donc, on ne peut pas faire beaucoup mieux, mais c'est très utile. Bon. Je reviendrai à propos de l'éolien et du photovoltaïque, si vous voulez. Ensuite, évidemment, dans les années 70-90, on a remplacé le charbon par du nucléaire. Et donc, il faudra qu'on parle du nucléaire aussi. Mais du point de vue du climat, remplacer le charbon par du nucléaire, c'est formidable. Bon, parce que c'est grâce à ça qu'en France, vous savez quels sont les chiffres là, pour produire, combien on émet de CO2 pour produire 1 kWh d'électricité, hein, bon. En France, 79 grammes. En Allemagne, 461. Donc vous voyez un peu ce que fait les conséquences de politiques énergétiques différentes. L'économie de l'Allemagne a toujours été basée sur le charbon, et même sur un truc bien pire que le charbon, qui est le lignite. Lignite, c'est une espèce de charbon brun, encore plus polluant à tout point de vue, les poussières, les pluies acides, et même la capacité, le contenu énergétique, si vous voulez, la capacité à chauffer, quoi, est moindre que le charbon, qui n'est déjà pas formidable. Bon.
Et puis, si j'ai bien compris, leur choix de transition énergétique a encore aggravé la situation.
Alors, il se passe quelque chose de très intéressant avec l'Allemagne que j'ai compris progressivement, y compris d'ailleurs lors de nos réunions entre les académies des sciences et des technologies françaises et les équivalents allemands. Donc, il y avait des représentants de 4 académies, la France, l'Allemagne, 2 tchèques. Bon. Et donc, on s'est mis à discuter de tout ça. Et bien sûr, je leur ai demandé de façon de plus en plus précise comment se faisait-il que l'Allemagne, qui se prétend le champion de la défense de l'environnement, qui construit tellement d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, continue à émettre 2 fois plus de CO2, j'arrondis les chiffres, que la France, et même ne diminue pas. Parce que ça ne diminue pas. Alors, on en a discuté et on était en fait en privé, mais pas en public, et ça, je me suis permis de le dire aussi, parce que quand même, je trouve que c'est suffisamment choquant pour briser le secret de certaines réunions. Bon. Ce qui se passe avec les éoliennes, c'est la chose suivante, c'est que c'est intermittent. Ça veut dire que quand il y a trop de vent, il faut arrêter les éoliennes, parce que c'est comme les voiles d'un bateau. Quand il y a une tempête, si vous ne réduisez pas la voilure, hein, eh bien la voile s'envole et votre bateau chavire. Et donc, quand il y a trop de vent, les éoliennes ne tournent pas. Et quand il n'y en a pas assez, elles ne tournent pas non plus. Et donc, le résultat, c'est que, en fait, les éoliennes marchent 1 fois sur 5. On dit ça en disant que le facteur de charge est de 20%. Ça veut dire qu'en moyenne, c'est 1/5 de la puissance installée. Et alors, ce qui est pire, c'est que quand ça s'arrête, il faut allumer autre chose à la place, évidemment. Naturellement. Nous, les consommateurs, on a l'habitude que quand on met la prise, qu'on branche on n'attend pas qu'il y ait du vent pour avoir de la lumière chez soi. Bon. Les panneaux photovoltaïques, c'est pareil, quoique l'amplitude de l'intermittence est un peu moindre. Mais quand même, les panneaux photovoltaïques, le soir, quand tout le monde rentre à la maison et allume la lumière, le four électrique pour faire à manger et la télévision, on a besoin d'électricité. Alors les panneaux photovoltaïques, à cette heure-là, ils ne produisent rien. C'est un pic de consommation et c'est un creux de production. Ça ne va pas. Bon. Et donc, il faut qu'il y ait autre chose qu'on mette en route, subjonctif, quand les intermittents s'arrêtent. Et des centrales qu'on peut allumer en une demi-heure, parce que c'est ça la constante de temps pour répondre, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Il faut ce qu'on appelle des centrales thermiques ou à flamme, c'est-à-dire les bonnes vieilles centrales habituelles qui brûlent du gaz, du charbon, du lignite ou du pétrole. Dans l'Allemagne, c'est du charbon parce qu'il n'est pas cher. Ils l'achètent aux États-Unis qui ont remplacé par les gaz de schiste. Et puis le lignite parce qu'ils sont le premier producteur mondial de lignite. C'est pas cher, c'est sur place, c'est très polluant, mais on ne le dit pas. Et donc le résultat de ça, c'est que la part du lignite, j'y reviens sur ce satané lignite, la part du lignite dans le mix électrique de l'Allemagne ne fait qu'augmenter. Elle monte. Et donc il y a un mensonge là que je me permets de dénoncer vigoureusement, comme vous voyez, je m'enflamme parce que ce sujet est grave, nous concerne tous. Et que c'est le moment de mettre des chiffres, de réfléchir et de ne pas faire semblant avec de la propagande mensongère. Donc l'Allemagne, sa transition énergétique qui vise, qu'on appelle l'énergie 22, qui vise à remplacer de plus en plus, installer de plus en plus d'éoliennes et de photovoltaïques, malheureusement, tant qu'on n'aura pas inventé une manière de stocker l'électricité de manière massive, parce que vous voyez bien, si on a une méthode pour remplir un réservoir d'électricité et puis le redistribuer quand les sources s'arrêtent, c'est formidable. Alors il y a une chose qu'on sait faire, c'est remonter l'eau dans les barrages. Et ça, le barrage de Grand-Maison, qui est un barrage que j'aime énormément, aide énormément la France à compenser les fluctuations, soit de la demande, soit de la production. Donc si on avait plein de barrages comme la Suisse ou la Norvège, on n'aurait aucun problème, et la Suisse joue un rôle très important pour ça dans toute l'Europe. Mais en Allemagne, il n'y a pas de barrage, pratiquement, de tels barrages qui pourraient stocker l'électricité. Et donc en l'absence de... Alors peut-être que les chercheurs dont je fais partie, je ne fais pas de la recherche là-dessus, mais bon, vont inventer une manière géniale de stocker l'électricité, auquel cas le problème sera résolu. On mettra plein de solaire photovoltaïque et puis on stockera. Mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Et les batteries, par exemple, c'est très limité, ça coûte extrêmement cher et il faut les changer tous les 3 ans. En gros, vous n'avez qu'à voir la batterie de votre ordinateur. Elle est très bien, une batterie lithium-ion, c'est très performant, c'est léger. Bon, ça contient beaucoup, mais vous savez bien qu'au bout de 3 ans, il faut changer la batterie. Eh bien, imaginez qu'on stocke l'électricité d'un pays entier. Oui, il faudrait des milliers de tonnes de batteries comme ça, et ça coûte très cher, et il faut les changer tous les 3 ans, etc. Donc, c'est pas accessible. Voilà le genre de problème qu'on a à résoudre.
On parle de réseaux intelligents permettant à l'échelle du continent de réguler. Oui. Après tout, le climat n'est pas le même, tout à fait le même partout.
Bien sûr.
Est-ce que ça répond au problème, ou seulement partiellement ?
Ça répond un peu. Et il faut bien voir que le problème est tellement difficile, il est tellement évident qu'il n'y a pas une solution miracle, qu'il faut faire beaucoup de choses les unes à côté des autres. Donc, il est clair que si vous avez une seule éolienne quelque part, ça s'arrête, ça redémarre tout le temps. Bon. Mais si vous mettez beaucoup d'éoliennes réparties déjà sur toute la Bretagne, ou mieux sur toute la France, encore mieux sur toute l'Europe, alors l'amplitude des fluctuations n'est pas aussi intense. Bon. Mais elle reste considérable, considérable. Ça varie entre 0 et 50% de la puissance nominale qui est marquée sur l'étiquette de l'éolienne, vous voyez. Et donc, il faut additionner, redistribuer l'électricité produite par les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques au niveau de toute l'Europe. Je viens de lire un article prospectif de EDF qui explique ce qu'il faudrait faire. Eh bien, il faut mettre des lignes électriques partout, hein, et y compris entre des pays entiers pour que la Norvège et la Suisse veuillent bien encaisser les fluctuations du reste de l'Europe. C'est pas impossible, mais même si on regarde la somme de toutes les éoliennes sur toute l'Europe, on voit que ça continue à être intermittent. Et donc, ça ne résoudra pas le problème, ça l'atténuera un peu, vous voyez.
Venons-en. Le nucléaire.
Alors,
est-il une grosse part de la solution, notamment en France?
Oui.
Écoute, il est plutôt dans l'œil du cyclone, le nucléaire, en ce moment, plutôt désigné.
Eh bien, il y a eu.
Qui serait plus d'avenir, oui. Bon, qui est dangereux, ça c'est un fait, mais dépassé. On constate quand même pas mal de problèmes dans le développement des réacteurs de nouvelle génération. Oui. La période n'est pas très faste.
Il y a beaucoup de critiques qui sont émises. Certaines sont justifiées, d'autres ne le sont pas. Mais effectivement, il y a deux problèmes dans le nucléaire, deux problèmes principaux. Il y a le problème de la sûreté. Et on a eu trois accidents majeurs dans le monde en quelques décennies. L'accident de Three Miles Island aux États-Unis en 1979, je crois. L'accident de Tchernobyl 1986, sauf erreur de ma part, et Fukushima en 2011. Bon, Three Mile Island, il ne s'est pas passé grand-chose, en fait. Tchernobyl a été très grave, très grave. C'était la conséquence d'un certain nombre de choses. D'abord, les réacteurs RBMK, sont instables. C'est-à-dire que quand l'alimentation du circuit de refroidissement est coupée par un accident ou quelque chose... ça chauffe et la réaction s'emballe. Donc la réaction nucléaire s'est emballée à Tchernobyl. C'est ça qui a fait exploser, qui a créé un nuage de radioactivité qui s'est promené dans toute l'Europe, y compris sur l'est de la France. Mais à ce propos, j'explique tout ça en détail avec mes références dans le livre. La radioactivité de Tchernobyl n'a fait aucune victime en France. J'insiste, aucune. Et ces histoires de nuages qui ne passent pas la frontière, c'est de la propagande politique que je dénonce. Bon. C'était néanmoins très très grave. C'était un réacteur instable qui n'avait pas d'enceinte de confinement comme l'ont tous les réacteurs français, où les techniciens qui s'occupaient du maintien de la centrale ont décidé, comme ça pour voir, de couper toutes les sécurités pour voir si ça chauffe ou ça va. Ça a chauffé, ça leur a explosé la figure. Bon. Et donc, il y a quand même eu plusieurs milliers de cancers, effectivement, à la suite de l'irradiation des gens autour de Tchernobyl, dont 50 morts sur le coup. Bon. Alors, Fukushima, on a fait à l'Académie un rapport entier là-dessus, ces trois aspects. Fukushima, c'était un réacteur stable, lui, à eau bouillante, comme il y en a aussi aux États-Unis. Et donc, quand il y a eu un énorme tremblement de terre, colossal, hein, le tremblement de terre, absolument hallucinant. Sur 500 mètres de long et 150 mètres de large, la terre s'est déplacée de 60 mètres d'un coup. Ça a créé des vagues jusqu'à 34 mètres de haut. Et quand c'est arrivé à la centrale de Fukushima, il faut voir que les ingénieurs qui avaient conçu Fukushima, au début, ils se sont dit, oh ben, si on rase la falaise, parce qu'il y a une falaise au bord de la mer, si on rase la falaise, eh bien, ce sera plus facile de pomper l'eau. Donc, on a rasé la falaise, on a mis les centrales au bord de l'eau, et effectivement, il y avait des tuyaux qui pompaient l'eau pour refroidir la centrale, etc. Bon. Alors, évidemment, quand des vagues du tsunami sont arrivées là-dessus, elles ont tout balayé. Mais le tsunami est arrivé une demi-heure, ou même plus, je ne sais plus, 51 minutes, je crois. C'est tout dans mon livre, mais je n'ai pas une mauvaise mémoire. quand cette vague est arrivée là, c'était bien après bien après le tremblement de terre, donc les opérateurs, donc la société TEPCO, avaient arrêté les réacteurs. Donc la réaction nucléaire était arrêtée, mais c'était encore chaud. Bon. Et comme c'était encore chaud, quand le tsunami a rasé l'alimentation électrique et l'alimentation en eau, ça a fait fondre le combustible, qui est un alliage d'uranium et d'autres choses. Bon, ça a produit de l'hydrogène et il y a eu une explosion de gaz. Une explosion de gaz, pas une explosion nucléaire. Bon. Et donc ça a envoyé un nuage aussi, mais beaucoup 10 fois moins important qu'à Tchernobyl, qui a forcé le gouvernement, la sécurité civile, à déplacer 150 000 personnes. Ce qui évidemment est très grave, hein, déplacer 150 000 personnes, c'est grave. Maintenant, vous me direz, les mines de lignite en Allemagne, ça a déplacé pareil. Hein, ce n'était pas d'un seul coup, donc ça se voit moins, puis on ne le dit pas de la même manière. Bon. Enfin bref, mais il y a eu 18 000 morts du tsunami et de la radioactivité, zéro. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Bon, c'est grave, mais la radioactivité n'a tué personne. Alors, il y a eu un article l'autre jour qui disait que peut-être il y avait un premier cas de cancer aux alentours. Il y en aura plusieurs. Mais les cancers de la thyroïde, bon, c'est pas drôle, hein, je dis pas ça pour le négliger, mais enfin, ça se soigne quand même. Bon. Et donc, les conséquences sanitaires de Fukushima sont quand même relativement limitées. Bon, mais il n'y a pas de doute que c'est dangereux le nucléaire. Je suis d'accord, c'est dangereux. Il y a des problèmes de sûreté. C'est pour ça qu'on a une autorité de sûreté nucléaire en France qui fait très sérieusement son travail. Elle pourrait le faire encore mieux. On peut toujours faire mieux en matière de sûreté. Mais je trouve qu'en France, on est quand même tranquille. Il n'y a pas de tremblement de terre de magnitude 9 comparable à ça. C'est pas, le risque sismique en France n'a jamais été comparable ni à celui de l'Italie, ni à celui, a fortiori, du Japon. Ensuite, il n'y a pas de tsunami sur le Rhin. Je suis désolé, Fessenheim n'est pas en danger. Bon. Donc je crois qu'en France, le nucléaire rend d'immenses services en produisant de l'électricité pas chère, hein, de manière relativement sûre, hein, ce qui nous permet aussi de réduire nos émissions de CO2. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre du nucléaire n'importe où? Alors ça, non. D'abord, il y a des pays qui sont contre, pour leur culture. L'Allemagne vient de décider de fermer. Bon, il y a des pays qui sont pour, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, l'Inde, tous ces pays construisent des réacteurs nucléaires parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils en ont besoin. Mais il y a des pays où il ne faut absolument pas construire du nucléaire. Quand je pense que M. Sarkozy voulait vendre des réacteurs nucléaires à la Libye de M. Kadhafi il y a à peine quelques années, je suis saisi d'horreur. Enfin, c'est de la folie. Il faut un niveau de technologie élevé, il faut de la stabilité politique, il faut de la transparence du système, il faut beaucoup de choses que la Libye de Kadhafi n'avait et n'aura jamais, enfin dans un avenir relativement proche, vous voyez. Donc je suis conscient des dangers du nucléaire, mais je pense que dans beaucoup de pays comme la France, c'est quand même très très utile. Alors après, il y a un problème de déchets, on peut parler, mais je parle peut-être trop longtemps.
Non, on peut... Oui, on peut.
Bon, les problèmes de déchets, aussi rapidement que possible. Bon, effectivement, il y a des déchets. La solution la plus intelligente, à mon avis, c'est de transformer les déchets en combustible. Il y a dans toutes les grandes villes des usines à incinération des déchets. Et on fait de la chimie, là. On fait brûler des déchets par des réactions chimiques. La combustion, c'est une réaction chimique. Mais là, il s'agit de transformer en combustible nucléaire les restes de la première combustion de l'uranium, qui sont principalement du plutonium. Et ça, non seulement ça résout presque l'ensemble des problèmes des déchets qu'on peut brûler, en somme. Mais aussi, ça résout un problème d'approvisionnement parce qu'on va utiliser 100% de l'énergie contenue dans l'uranium au lieu de seulement 5% actuellement parce qu'on passe le combustible une seule fois et que là, on va le repasser en éliminant les déchets à chaque fois. Donc l'avenir, c'est ça.
Ça, ce sont des technologies à venir ?
Non, c'est des technologies qui sont en cours d'amélioration parce qu'il y a eu en France trois réacteurs successifs qui utilisaient ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides. Il faut des réactions nucléaires un peu plus puissantes que les réactions habituelles, et qui étaient dans l'ordre Rhapsody, Phoenix et Superphénix. Alors Superphénix a été fermé par M. Jospin sous la pression de Mme Voynet, parce que les gens avaient des idées préconçues. Et puis c'est vrai que Superphénix a eu quelques problèmes avec son circuit de refroidissement qui utilisait du sodium. Alors le sodium, ça s'enflamme à l'air. Mais bon, l'hydrogène, l'essence, tout ça, c'est très très inflammable. Hein. Bon. Donc les problèmes de sodium avaient été résolus. Superphénix a produit de l'électricité en énorme quantité pendant toute la dernière année de son fonctionnement. Et donc, c'était plutôt une décision politique qu'une décision technique. Alors maintenant, depuis cette époque-là, l'autorité de sûreté nucléaire en France a imposé des normes de sécurité, de sûreté, pardon, qui sont beaucoup plus strictes qu'à l'époque. Et donc, il faut faire davantage de recherches. Et c'est pour ça que la France construit un prototype d'études où on va faire de la recherche avancée sur l'amélioration de la sûreté des réacteurs de quatrième génération. Ça s'appelle Astrid. C'est au moins à l'état d'étude. J'espère que ça va être construit rapidement et que bientôt, on pourra passer à la quatrième génération de réacteurs nucléaires en France, parce que ça, c'est l'avenir. Alors, bien sûr, il va y avoir à nouveau, comme d'habitude, des opposants politiques, mais ça, c'est de la politique. Moi, j'essaye de faire de la science, je mets des chiffres, j'essaye de réfléchir à ce qu'on peut faire, à ce qu'on ne peut pas faire, à tout.
Dans votre ouvrage, on comprend bien que pour résoudre ces problèmes-là, il faudra effectivement faire de bons choix politiques, nationaux, internationaux même,
oui.
Le problème et les défis sont d'une telle ampleur que... Chacun, individuellement, se trouve bien démuni. Et pourtant, néanmoins, il faudrait, semble-t-il, que chacun s'en charge aussi.
Oui.
Alors, que peut-on faire? Parce qu'on est beaucoup sollicité. Parfois, on se fait tirer l'oreille, on est un peu culpabilisé. Par réaction, on peut dire, du coup, je m'en fiche, de toute façon, tant que l'Allemagne ou les Chinois ou n'importe qui continueront à produire comme ils produisent, ça ne change rien, je peux prendre ma douche une demi-heure. De plus, ça ne changera rien. Alors, que peut-on faire concrètement, à titre individuel, pour participer à ce défi collectif?
Alors, comme vous le dites très bien, il y a plusieurs niveaux dans l'action qu'on peut essayer de mener. Il y a des actions individuelles. Il faut arrêter le gaspillage. Donc il faut isoler ces maisons pour utiliser moins d'énergie pour se chauffer. Une solution intelligente, c'est non seulement d'isoler les maisons, mais aussi d'utiliser ce qu'on appelle des pompes à chaleur, hein, qui sont des comme leur nom l'indique à nouveau, on utilise la chaleur du sol et puis un liquide qui circule avec une petite pompe électrique. Pour chauffer la maison. Et ça utilise peu d'électricité et ça émet zéro CO2. Donc ça, c'est très, très bien. Enfin, l'essentiel, c'est de faire de l'isolation thermique. Mais ça coûte très cher. Et donc, il faudra de grosses subventions publiques pour atteindre l'objectif affiché par la loi française de 500 000 logements. Pour l'instant, c'est un objectif qu'on affiche, mais en fait, on en fait 120 000 par an. Donc, il faut mettre beaucoup d'argent et d'énergie sur cette histoire d'isolation thermique qui va prendre 20-30 ans. Hein. Bon. Ensuite, il ne faut pas prendre sa voiture pour faire 200 mètres. Il faut y aller à pied ou en vélo. Et puis, il ne faut pas prendre l'avion pour faire 500 km. Il faut construire des trains électriques. Le TGV, c'est très bien pour aller d'une capitale à l'autre dans toute l'Europe. Hein. Donc, il faut faire toutes ces choses-là. Il faut inventer des voitures électriques pour circuler en ville. Il faut surtout développer les moyens de transport en commun, les métros, les tramways, tout ça, c'est très bien. Ça, c'est des initiatives au niveau de la collectivité, qui est une commune, une communauté de communes, etc. Mais après, il y a le niveau national, parce que vous voyez bien qu'il va falloir plus d'électricité. Alors, construire un peu d'éoliennes et un peu de photovoltaïque, je crois que c'est possible, mais autant que la loi française ou la loi allemande l'ont écrit, ça me paraît pas réaliste, tant qu'on n'aura pas de méthode géniale pour stocker l'énergie. Donc il faut plus d'électricité. Alors plus d'électricité propre, eh bien effectivement c'est pas facile. Donc je vous ai expliqué que le nucléaire c'était pas pour tout le monde. Les barrages hydroélectriques, il n'y en a pas partout. Donc il va falloir avoir quand même des centrales à flammes. Donc ils vont brûler effectivement du fossile. Mais, j'insiste, il faudrait capturer et séquestrer le CO2 qui s'échappe des cheminées, des réacteurs, des centrales thermiques en question. Alors le problème, c'est qu'il faut de la recherche à nouveau là-dessus, parce qu'à petite échelle, on sait capturer et séquestrer le CO2. Les pétroliers savent séquestrer le CO2 et même beaucoup d'autres saletés qui sortent des puits de pétrole ou de gaz naturel. Mais après, il faut le réinjecter. Alors on peut le réinjecter dans des puits de pétrole ou de gaz naturel qui sont en fin de production. Donc là, il y a de la place pour en mettre. Mais à l'échelle de la production du monde entier, oulala, ça fait vraiment beaucoup. Et donc, il faudrait faire de la recherche, en particulier en géologie, pour voir où sont les aquifères qui permettraient de stocker davantage de CO2 et comment être certain que ça ne ressort pas. Donc vous voyez, il y a de la recherche à faire aussi là-dessus, mais je pense qu'il va falloir développer la séquestration, la capture et la séquestration du CO2. Oui.
Et c'est envisageable dans les délais impartis ?
Eh bien, il faut s'y mettre tout de suite et on y arrivera peut-être. Mais il y a des tas d'autres choses qu'on peut faire. Hein. Il faut planter davantage d'arbres pour capturer aussi du CO2 de manière naturelle. On peut mettre ce qu'on appelle des hydroliennes, c'est une espèce d'éolienne qui marche sous la mer. Pour les îles, par exemple, je suis allé au Ouessant, on a construit des hydroliennes. Ben, c'est bien, c'est mieux que de brûler du pétrole. On peut récupérer un peu du purin dans les élevages pour en faire du méthane. On peut utiliser peut-être l'électricité des éoliennes pour hydrogéner de cette biomasse et en faire des biocarburants. Ou éventuellement, on peut transformer justement directement le CO2 en méthane avec l'électricité des éoliennes. Enfin, c'est le moment d'avoir des idées. Moi, vous voyez.
De planter des arbres.
Oui.
Certaines centrales thermiques au charbon, celle de Gardanne,
oui,
par exemple, dans les Bouches-du-Rhône,
oui,
est devenue, je crois, maintenant une centrale à bois.
Bon, bah c'est bien. Oui.
Voilà, je ne sais plus où c'en exactement, mais
oui.
En tout cas, le projet était là et je crois même que ça a démarré. Le recours au bois, c'est positif.
Oui.
On dit que c'est polluant aussi. On a vu que dans certaines villes, on interdisait les feux de cheminée. À Paris, peut-être pas cité. Qu'en pensez-vous ?
Excellente remarque. Le bois, c'est très intéressant. Alors, d'abord, le bois n'est renouvelable que si on replante tout ce qu'on brûle. Attention qu'un arbre, pour pousser, ça prend 20 ou 30 ans. Donc on peut pas couper toutes les forêts pour se chauffer pendant quelques temps, puis après il n'y aura plus rien, etc. Non. Donc les ressources en bois sont relativement limitées, mais quand on habite dans une région où il y a de grandes forêts en exploitation, c'est très bien. Il faut en particulier brûler tous les déchets, les morceaux d'écorce, etc., tout ce qui tombe dans de la scierie, vous voyez. De même, il faut utiliser aussi, d'ailleurs, toute la paille de la culture du blé, de culture alimentaire. Bon. Alors, ensuite, la pollution par les particules, oui, ça mérite un peu, parce que les Suisses, qui sont des gens propres, comme nous savons, ils savent très bien capturer les particules à la sortie de la cheminée de leur maison. Ça coûte pas très cher. Il y a deux méthodes, catalytique ou électrostatique. Ça coûte 1000 euros, quelque chose comme ça, par cheminée. Si ça permet de brûler du bois et d'être bien parce que les flammes, c'est joli, moi, je trouve ça très bien. Donc, on raconte des choses qui sont pas très dépassées. Voilà. Donc, le bois, c'est...
La condition d'avoir une filière adaptée, c'est positif.
C'est bien. Ça va pas être généralisable à l'ensemble du pays, a fortiori de l'ensemble du monde. Mais là où on peut, là où il y a du bois, et si on replante, hein, je le répète, c'est très bien, le bois. Je suis tout à fait pour, moi.
Je vous poser une dernière question.
Oh, mais je vous en prie.
On n'est plus dans un modèle prédictif, mais on est dans le sentiment.
Oui. Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on y arrive ou pas ?
Eh bien, je crois que ça va être très difficile et qu'il faut s'y mettre tous ensemble, à la fois tous ensemble dans une société, dans une collectivité locale, même dans une famille. Après tout, on gaspille plein de choses. Je crois qu'on doit pouvoir diminuer la consommation d'énergie d'environ 20%. 50%, comme le prétend la loi française, ça me paraît pas possible. Il faudrait que ce soit un temps de guerre. On va peut-être y arriver. D'ailleurs, j'espère que non. Mais bon. Donc je crois que en s'y mettant tous et le plus vite possible, on peut essayer de limiter le réchauffement climatique aux environs de 2 degrés. Ça me paraît encore peut-être possible, mais très difficile. Et de toute façon, c'est pas parce que c'est très difficile qu'il faut baisser les bras. Et donc, c'est quand même pour ça aussi que dans ce livre, j'examine une par une toutes les sources d'énergie et toutes les méthodes pour arrêter le gaspillage, afin qu'on essaye, si ce n'est de limiter à 2 degrés, au moins de rester le plus près possible de cette espérance.
Merci beaucoup, Sébastien Balibar.
Je vous en prie.
Pour permettre à chacun de... non seulement de se renseigner, mais comme y invite le livre, de s'engager pour le climat et contre cette perspective assez terrifiante de réchauffement climatique au-delà de 2 degrés. Je renvoie donc à votre ouvrage, Climat, y voir clair pour agir, car il ne s'agit pas seulement de voir clair, mais bien d'agir, donc par Sébastien Balibar. C'était aux éditions du Pommier. C'est tout à fait lisible par quelqu'un qui n'a pas fait d'études supérieures en physique. Bien au contraire, c'est fait pour Monsieur Tout-le-Monde, pour l'aider à comprendre et agir, pour la modique somme de 17 euros, donc aux éditions du Pommier. Merci beaucoup.
Merci à vous.